On va passer un moment où on va réfléchir sur certains aspects de la vie. On va continuer notre série, du coup, toutes les 2 semaines, puisque je prends la parole toutes les 2 semaines sur Colossiens. On va parler du coup, puisque c'est la suite aussi du texte qu'on a vu la 2 semaines, on va parler de ce qui est l'ombre. On parle dans le texte à un moment donné de l'ombre. Il est dit de l'ombre des choses qui à venir, avec ce contraste qu'il fait l'apôtre Paul avec la réalité en Christ. Alors, ça m'a fait penser un peu à qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit la réalité en Christ? La réalité, c'est que l'autre pendant, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas une réalité ou un rêve ou quelque chose comme cela. Ça m'a fait penser aussi un peu quand on est peut-être sur son smartphone. Ou devant la télévision, devant les réseaux sociaux, où finalement on a un peu ce sentiment d'être un peu décroché parfois de la réalité, surtout si on reste pendant longtemps devant ces différents supports. Et puis surtout parce qu'on imagine un petit peu la vie qu'on aimerait, et peut-être qu'on aimerait qu'il soit vrai, qu'il soit réalité pour le coup. Qui n'aimerait pas être cette, pas pour moi, hein, pour les femmes, qui n'aimerait pas être cette superbe actrice, ou alors qui n'aimerait pas être ce youtubeur, bon, je dis, ou youtubeuse, parce que c'est vrai que c'est plus, voilà, youtubeuse qui a des super plans de vie, qui sait bien comment tenir sa maison, qui sait bien entretenir son corps. Qui n'aimerait pas être comme ce couple? Qu'on voit à la télé et qui ont une vie, on dirait, parfaite, où ils font des voyages un peu partout dans le monde, enfin, c'est super, dans des coins paradisiaques, ils montrent des photos sur Facebook, où nous, on est dans un temps voilà, où il pleut et tout. D'ailleurs, on voit que les gens, ils sont un peu rebutés pour sortir, pour revenir à l'église, mais. Où, voilà, nous on est là et puis il y a d'autres personnes où ils nous montrent des photos en maillot de bain, en train de bronzer. Qui voudrait pas cette vie-là? Et qui voudrait vivre la vie du chrétien qui témoigne dans sa ville de ce que Christ a fait envers nous, de ce qu'il a fait voilà, et puis qu'on puisse vivre aussi cette vie en conformité de ce que Dieu demande. Alors c'est vrai que ça fait un peu moins rêver peut-être. Ça fait peut-être un peu moins rêver quand on dit ça comme cela. Et donc du coup, dans le texte qu'on va lire là, juste maintenant, il parle de la réalité un peu éphémère, on va dire, et puis cette réalité éternelle. Et on pourrait se poser aussi la question, du coup, on pourra répondre à la fin de la prédication, mais est-ce que la vie du chrétien est appelée à être monotone, finalement? Alors, on va lire le texte. Et donc, l'idée principale, on va voir que c'est de savoir distinguer finalement cette réalité éphémère ici sur terre et les réalités d'en haut, comme il est dit aussi dans le texte, les réalités d'en haut qui sont éternelles. Alors lisons ensemble notre texte, donc c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, et puis on va aller jusqu'au chapitre 3, verset 4. Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête de nouvelle lune ou de sabbat. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, donc il y a 2 semaines, si vous étiez là, On parlait de tout ce qui est les philosophies trompeuses, hein, donc on continue ce texte-là. Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Mais la réalité, c'est le corps de Christ. Ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges. Au gré de leur vision, ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair et ils ne s'attachent pas à la tête par laquelle tout le corps, bien uni grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Donc la tête, c'est le Christ. Si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Si donc vous vous êtes réveillé avec le Christ, ressuscité, dans d'autres traductions on peut avoir, ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. On va arrêter le texte. Voilà. Donc vous vous souvenez que la dernière fois, on a étudier plutôt Colossiens 1 à 2, versets 1 à 15, où il parlait des pièges, les pièges des beaux parleurs. Et là, on voit qu'il continue l'apôtre Paul sur ce même registre. Puis aussi, il parlait des gens qui s'appuient sur des traditions humaines, qui traduit en fait ces traditions humaines, qui traduit en fait des choses du monde et non pas celle du Christ. Et on avait dit aussi que l'évangile, en fait, l'évangile, c'est le Christ. Ce n'est pas un bouquin qu'on lit, ou ce n'est pas quelque part la Bible, le texte qu'on lit. L'évangile, c'est ce que incarne le Christ. Et nous sommes des représentants de cet évangile, du Christ. Et c'est par le comportement que nous pouvons imiter du Christ que nous pourrons être des représentants de cet évangile. Alors, ce verset qui dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. » Il parle en fait des traditions, il parle des lois, même de la loi que Moïse a mis en place de la part de Dieu. Il parle de cela, c'est ça l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Et on voit que finalement, tout ce qui est décrit, Israël, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passe à travers Israël n'est qu'une image, une image de ce que va être en réalité, ce que va incarner le Christ. Seule la grâce par Jésus nous donne réellement la vie. On voit, comme d'ailleurs la dernière fois, qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour pouvoir plaire à Dieu. On voit dans le verset 23, par exemple, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elle demande une dévotion rigoureuse. Alors une dévotion, c'est une énergie qui est mise, qui est énorme. Des gestes d'humiliation, pourtant, on nous parle souvent de l'humilité. L'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Et on voit toute cette énergie qui est donnée, toute cette énergie qui paraît très chrétienne ou très religieuse, et finalement toute cette énergie qui ne sert pas, même fait plus de mal que de bien. Savoir distinguer les réalités éphémères et les réalités d'en haut. C'est ça que nous allons essayer de voir dans ce texte. Versets 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Quelle est cette ombre qui maintenant est la réalité du corps du Christ? Pourquoi ces rites servent aujourd'hui pour l'œuvre du Christ? En fait, cette question d'ombre et de cette réalité en Christ n'est pas dite seulement dans ce texte. Et on peut le trouver également dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 7, et notamment versets 6 et 7, où il est dit « La loi », donc comme on le voit aussi dans Colossiens, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Alors qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous apprend par rapport à ce verset 17 de Colossiens? Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Il semble que l'Épître aux Hébreux dit qu'il s'agit des biens qui vont venir. Mais il ne s'agit que de l'ombre, et ce n'est pas l'image même de cela. C'est une image faussée. Alors pourquoi cette loi, si c'est une image faussée? Pourquoi cette loi était nécessaire avant et qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose, puisque ça a l'air d'être imparfait? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé également, donc il y a 2 semaines, de ce dilemme entre des personnes qui sont un peu trop sur la loi, où ils vont, pour chaque fait et geste que d'autres frères et sœurs font, ils vont dire « Ah, ça, c'est pas bien. » Et puis, au contraire, on a aussi l'inverse, d'autres qui se disent chrétiens, qui vont interpréter à leur sauce, parce que Dieu leur a parlé personnellement, apparemment, d'une voix, et qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire, et que finalement, même là, le texte biblique, on peut l'interpréter comme on veut, quoi. On a des fois ces deux tendances. Et là, on se trouve exactement un peu dans ce dilemme, en fait. Faut-il suivre la loi? Oui ou non? Donc, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce qu'il y a dans la Bible, quand même. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des jugements assez terribles, hein, par rapport au comportement. Alors, quelle loi il faut suivre. Et à quoi nous sert l'Ancien Testament? Alors, petite nuance quand même, c'est que vous pourrez remarquer qu'il n'est pas dit que tout ce qui s'est passé avant, ben vous oubliez. Tout ce qui est venu avant la venue de Jésus, vous oubliez, ce n'est rien, pas grand-chose. Il est dit au contraire. Il est dit, il semble dire que cela a une grande utilité. Notre Dieu ne veut pas que nous nous attachions à des choses périssables, à ce qui meurt. Et c'est vrai que ici sur Terre, nous sommes entourés de choses qui vont mourir, qui sont une réalité, mais une réalité périssable finalement. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile de voir cette réalité glorieuse qui nous est promise. S'il y a une ombre à travers la loi de Moïse, c'est qu'il se cache une réalité aussi derrière cela. Mais il ne s'agit pas de la réalité même, puisqu'il s'agit de l'ombre. Parce que la réalité même, c'est celle qu'on se trouve seulement en Christ. Alors, quelle est cette réalité cachée à travers cette ombre? Quelle est cette réalité qu'on trouve à travers l'observance des lois, telles que qu'est-ce qu'on peut manger, telles que ce qu'on peut boire, ou encore le sabbat? Comme il est pris en exemple, le sabbat, on va prendre cet exemple-là, où en Hébreux 4, verset 3 à 11, il est dit « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans la mesure où Dieu a dit » Donc quand on dit « entrer dans le repos », on parle en fait aussi du sabbat, hein, le sabbat qui est le repos que Dieu nous a donné. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un jour de sabbat dans le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La réalité du sabbat, par exemple, cette loi. Sabbat qui veut dire, en fait, de l'hébreu, repos. Le sabbat, c'est le septième jour de repos instauré par Dieu. En image du repos au septième jour de la création. Du repos que Dieu a fait au septième jour de la création. Mais comme le montre l'Épître aux Hébreux, ce sabbat qui fait partie du quatrième commandement dans la loi de Moïse, donné par Dieu, est une ombre de quelque chose en fait qui est encore beaucoup plus grand que simplement un repos. Dans Hébreux, encore un peu avant, dans le chapitre 3, versets 7 à 14, il est dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert, là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule qui le détourne de Dieu vivant. Au contraire, que vous puissiez vous encourager les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus des compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. L'Éternel avait un pays promis pour son peuple. Ce pays est considéré comme le repos de Dieu. Le plan de Dieu est de faire sortir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, de l'esclavage qui était en Égypte et de l'emmener dans ce pays de repos de Dieu. Eh bien, vous voyez que là, ceci est une ombre de ce qui sera réellement. Car oui, le peuple d'Israël a bien atteint le pays promis, mais ce n'est pas encore la réalité dans laquelle Dieu nous a établis. Chaque jour, nous avons à faire cette marche dans le désert, comme l'a eu le peuple d'Israël pour sortir de l'esclavage du péché, ce qui les enchaînait, dans lequel nous nous trouvons, l'esclavage du péché. Mais ce pays où nous arriverons avec la persévérance sera le véritable pays promis. C'est là où nous serons appelés. C'est ça, ce pays de repos. Il nous est demandé d'entrer dans son repos. L'histoire de Moïse, en fait, préfigure une histoire bien plus incroyable. Comme vous pouvez le voir, il est l'ombre d'une histoire, l'histoire du salut. Ce n'est pas simplement une image, c'est ça l'histoire du salut. C'est ça l'ombre des choses à venir. Je me suis posé la question de pourquoi on parle d'ombre. Je me suis dit que c'est parce que c'est une manière de pouvoir mieux comprendre, nous imprégner de ce que est la réalité. Par exemple, nous avons l'habitude de pratiquer des baptêmes parce que c'est un commandement dans le Nouveau Testament. Pourquoi faire le baptême finalement? Parce que dès que nous franchissons le pas, il y a un aspect très fort dans cet acte que nous entreprenons. Ce baptême est une image quand nous rentrons sous l'eau, que nous laissons mourir tous nos péchés. Et lorsque nous sortons de l'eau, ben cette restauration, cette résurrection avec Christ, que nous laissons tout dans l'eau. Et nous avons besoin de ces images dans notre vie de tous les jours. C'est quand nous visualisons que nous percevons la réalité. Par exemple, en ce moment, nous avons peut-être, nous voyons dans les infos cette peur par rapport à l'Aquarius. Et on voit que finalement, les gens ont du mal à percevoir la réalité qui se cache derrière. Si regardez la réalité des gens, de où ils sortent, s'ils voyaient les images de l'autre côté finalement, d'où ils sortent, eh bien, ils percevraient peut-être pas de la même manière cette réalité des personnes qui doivent quitter leur pays. Ayons toujours cette ombre en nous. On doit s'accaparer de cette histoire du salut qui est racontée depuis le début de la Bible. L'histoire doit être en nous et doit être imprégnée en nous. Et c'est le problème du péché dans lequel il y a une démarche, un processus, un plan pour accéder au repos de Dieu. L'histoire de l'Exode du pays d'Égypte pour atteindre le pays promis est également notre histoire. Notre histoire dans laquelle nous sortons du péché pour atteindre ce pays promis qui nous est promis après cette mort terrestre. Ce pays promis, cette nouvelle création que Dieu nous promet. Donc, je voudrais vous laisser quelques leçons pour aujourd'hui. C'est ne lisons plus la Bible comme une diseuse de bonne conduite à avoir, mais lisons cette Bible comme une vertu prophétique, une vertu qui nous raconte ce qui va venir pour nous, et non pas un passé d'il y a 2000 ans ou 4000 ans, parce que ce qui nous est raconté est une ombre des choses qui va nous arriver encore. Elle annonce le plan de notre salut pour nous aujourd'hui même. C'est l'ombre de la réalité en Christ. Par exemple, s'il est indiqué dans le Nouveau Testament, et puis même d'ailleurs dans l'Ancien Testament, mais indiqué par Paul, qu'on ne peut pas coucher avant le mariage, c'est qu'il y a peut-être une réalité aussi plus grande qui nous dépasse et qui est en vertu de ce repos de Dieu aussi. Que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre propre corps parce qu'il y a cette réalité du repos de Dieu, de cette nouvelle création qui va venir. Et que Dieu a un plan précis pour nous. Peut-être que c'est aussi une ombre des choses qui vont venir. Et c'est à nous de discerner, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous est donné, ce qui est utile et agréable pour Dieu. Nous avons donc cette ombre qui doit être en nous, notre histoire du salut qui est décrite dans toute la Révélation, mais également une image à retenir, celui du corps du Christ. Et au verset 19 de notre passage dans Colossiens, s'attacher à celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. C'est d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. L'unité tous ensemble en Christ. L'unité tous ensemble en Christ, avec Christ pour tête. Une ombre à retenir. Celui du chemin de notre salut, une image, celui du corps du Christ. La cohésion et l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Ce chemin ne se fait pas seul, Christ pour tête. Le début de Colossiens 3 parle des réalités à rechercher en haut. Quelles données pratiques pour améliorer notre vie et s'approcher de ce que Dieu veut pour notre vie? Parfois, il y a des choses ici-bas sur terre que nous devons faire pour pouvoir rechercher les réalités d'en haut. Pour certains, peut-être, ça sera malheureusement d'éviter de croiser certains bars quand nous marchons dans la rue, alors que pour d'autres, peut-être, ce sera un lieu de convivialité, tout simplement. Deux choses peut-être différentes pour chaque personne, et peut-être même ce sera un lieu de convivialité, mais encore plus un lieu de témoignage. D'autres, peut-être, un accès à Internet doit être contrôlé parce que des choses avilissantes ou qui peuvent nous détruire de l'intérieur sont des dangers pour nous. Et peut-être pour d'autres, ce sera moins un danger. Et ce sera un moyen, via les réseaux sociaux, de créer des liens, un vecteur initial peut-être pour le témoignage. Peut-être des personnes à travers la musique pourront louer Dieu pour la beauté des sons que Dieu a créés. Tout ceci est éphémère, peut-être, effectivement, mais c'est un cadeau que Dieu aussi nous donne et nous fait dans la vie, à condition de savoir bien l'utiliser. Alors, toutes ces choses sont peut-être des ombres de ce que je décris, mais combien important pour continuer à vivre cette réalité du chemin à suivre pour arriver au repos de Dieu. Alors, est-ce que la vie du chrétien est monotone? Encore hier, je me retrouvais avec la musique. J'aime beaucoup la musique classique et j'écoutais un concerto de Tchaïkovski. Et ça fait depuis l'âge de 6 ans que j'écoute la musique classique. Alors, à chaque fois que j'écoute, ça me fait revenir à plein de choses qui, voilà, qui datent depuis plus de 25 ans. Et c'est vrai, je me sens déconnecté d'une réalité quand je suis dans la musique. Mais je décide aussi que ce moment-là, c'est un moment où je peux louer Dieu aussi pour cette belle musique, pour cette chose que Dieu a créée et qui me donne aussi du poumon aussi pour continuer mon chemin avec Dieu, pour pouvoir louer Dieu. Parce que aussi j'aime donner par exemple des cours de musique, parce que les relations avec les autres sont des lieux aussi où je peux partager parfois ma foi, ou partager des choses qui me tiennent à cœur. Parce que tout simplement, ce qui me tient à cœur, c'est ce que je vis avec Christ. La vie du chrétien n'est pas monotone. Il faut juste savoir prendre ce qui nous vient et le vivre dans la perspective des réalités en haut. Alors certainement, beaucoup de choses que nous vivons sont des genres d'ombre, où on a peut-être parfois du mal à voir, mais où est la réalité d'en haut? Mais Dieu nous donne tout cela pour pouvoir nous tirer en haut, nous tirer dans les réalités d'en haut. Et juste pour terminer, et pour continuer par rapport à cette idée que on a besoin de ces activités que nous avons sur Terre, qui nous placent parfois dans l'imaginaire, comme on a vu, ou parfois c'est le théâtre, la musique, ou la peinture, ou d'autres choses. Mais en fait, l'histoire, la révélation nous place aussi dans cet imaginaire, en fait. Et nous avons besoin de cela. Nous place dans l'imaginaire, mais quelque chose de réel, qui a une réalité. Et ce que Dieu place dans son plan, c'est se remémorer de cette histoire d'il y a 2000 ans et encore plus même d'un millénaire bien avant. Que nous puissions nous remémorer et que l'histoire que nous vivons aujourd'hui puisse prendre une nouvelle tournure avec Christ, avec tout ce que nous avons pu apprendre de l'histoire de l'humanité, de ce que Dieu raconte dans sa révélation. Et par cela, beaucoup de vies ont déjà été transformées et encore, je crois, beaucoup de vies seront transformées par notre témoignage de vie. Dans notre vie de tous les jours. Et je finirai avec ces quatre versets dans le Colossiens 3 nous avons déjà lus. Mais vous, vous êtes aussi ressuscités. Avant, il disait que nous étions morts avec Christ. Et là, nous sommes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui en partageant sa gloire. Amen. Père éternel, merci pour ta révélation. Merci parce que tu nous apprends aujourd'hui que à lire ta parole, à voir que finalement, beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, peut-être que nous n'avions pas compris, il y a une réalité que tu veux nous faire prendre conscience à travers cette réalité de que tu es mort et ressuscité pour notre vie, pour que nous puissions cette vie éternelle. Pour que nous ayons cette vie après cette mort dans cette nouvelle création. Et je te remercie pour ce passage qui nous donne une telle fraîcheur dans notre lecture quotidienne que nous pouvons faire dans la Bible. Et Seigneur, Aide-nous chaque jour à comprendre ta révélation, à pouvoir la remettre dans la perspective de ce que tu veux, de cette ombre des choses à venir. Merci parce que nous avons aussi les frères et sœurs, nous avons l'Église pour nous aider à mieux comprendre ta parole. Que tu puisses chaque jour nous faire grandir en toi et que chaque personne aussi ici présente puisse se trouver encouragée aussi à lire ta parole et à pouvoir retrouver cette relation avec toi. En ton nom, nous te prions. Amen.